ce qui me permet d'introduire assez facilement l'intervention suivante, qui portera précisément sur un autre génocide, mais sur le tribunal pénal international pour le Rwanda, comme source de l'histoire, par Ornella Rovetta, qui est une brillante et prometteuse doctorante ici à l'Université libre de Bruxelles, en faculté de philosophie et lettres. C'est donc une historienne, et elle a le grand mérite et surtout le grand courage et l'audace intellectuelle de faire sa thèse sur le tribunal pénal pour le Rwanda, comme source d'histoire, sujet donc dont elle va nous entretenir maintenant. Merci beaucoup.
Oui, bonjour. Merci beaucoup. Et merci aux organisateurs du colloque de me permettre de participer à ce colloque qui est assez passionnant. Et il y a énormément de parallèles justement par rapport au panel d'hier et plus particulièrement le dernier panel de la journée d'hier par rapport à ce que j'avais prévu de dire aujourd'hui. Alors, je m'excuse, j'ai un tout petit peu changé le titre. Enfin, c'est-à-dire, je ne l'ai pas vraiment changé. J'ai ajouté une première partie qui me permet d'un peu spécifier le cas dont je vais traiter aujourd'hui. Donc, c'est les juges face au récit des parties dans le procès à Kayizu. Le TPR comme source d'histoire, qui là reste le même titre avec un point d'interrogation. Et donc, cette communication s'insère dans une recherche qui est en cours. Donc, je suis doctorante et qui porte sur le TPR comme source d'histoire. Et donc sur le TPIR comme collecteur et producteur de sources sur le génocide commis contre les Tutsis rwandais. Alors je proposerai une présentation, en trois points. Donc je vais brièvement revenir sur le contexte d'établissement du tribunal, sur son statut, ses compétences. Ensuite je présenterai le procès du bourgmestre Jean-Paul Akayesu. Qui est le premier procès en fait, qui sera tenu devant le TPR et qui pose une série de questions fondamentales. Et pour ce faire, j'ai défini trois espaces d'analyse avec un essai de déconstruction du procès, un premier espace juridique, deuxième espace comme espace de témoignage et enfin un troisième espace d'analyse avec le procès comme un espace de collecte et de production contextuelle. Et... Non, mais peut-être je suis trop près, en fait. Oui, ok. Ça fonctionne comme ça ? C'est bon ? Oui. Et donc, je conclurai sur la question de l'héritage de ce procès, du point de vue des archives et aussi du point de vue du récit judiciaire et de la vérité judiciaire. Alors, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, a été créé très rapidement après la fin du génocide. Il a été créé le 8 novembre 1994. Par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la résolution 955, et qui va également installer par la suite le tribunal dans la ville d'Arusha, en Tanzanie. Alors c'est un tribunal dont les procès ont débuté en 1996-1997, qui aura jugé en tout cas une septantaine de personnes avec des profils très divers, qui a été placé sous la direction de différents procureurs, et dont la fermeture, puisque c'était un tribunal ad hoc, devrait intervenir en juillet 2012, donc très prochainement. Alors, je vous ai mis un extrait de cette résolution pour commenter les compétences de ce tribunal. Il a été créé pour juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide et d'autres violations graves du droit international humanitaire, avec une compétence sur le territoire du Rwanda, mais aussi pour des citoyens rwandais sur des territoires d'États voisins, et avec une compétence temporelle qui s'étend en fait à l'année civile 1994, c'est-à-dire 1er janvier au 31 décembre 1994. Et bon, après, on pourra revenir sur la question de ce moule juridique et ces différentes compétences. Je vais passer par tous les micros. Ok. voilà. Alors, dans cette résolution, le tribunal a été positionné par le Conseil de sécurité comme un acteur potentiel de la réconciliation nationale et du rétablissement et du maintien de la paix au Rwanda. Et donc, à partir de ce positionnement, il me semble assez pertinent de s'interroger sur la vérité judiciaire ou le récit judiciaire que cette institution, donc ad hoc, allait écrire au cours de ces nombreuses années de procès qui ont été consacrées au jugement du génocide commis contre les Tutsis Parce que donc je spécifie que donc tous les procès ont eu pour objet le génocide, malgré un mandat plus large qui lui aurait permis aussi de juger les crimes commis par le FPR, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, en parlant de récit judiciaire, il serait aussi plus précis de dire que, en fait, en amont des jugements, on peut parler des narrations au pluriel qui ont existé dans le chef des différents acteurs. Et là, je me réfère aussi à ce qu'a écrit un anthropologue, Eltringham, qui disait « Trials are narrative ». Enfin, deux petites remarques sur la présentation encore, c'est que le TPIR n'est pas un objet monolithique et que le TPIR est par ailleurs un acteur parmi d'autres donc, dans ce paysage post-génocide judiciaire qui est en fait multiforme. Donc, je me concentre sur le TPIR, mais je pense que c'est important de garder malgré tout un cadre d'analyse suffisamment large qui permette de toujours le considérer dans un ensemble d'interactions qui sont assez complexes. Voilà, donc je vais passer au procès à Kayezou, qui est un procès qui a eu lieu de 1996 à 1998. C'est donc le premier procès qui a lieu devant le tribunal, comme je vous le disais, avec le premier jugement qui sera émis en septembre 1998. Et au-delà du fait que c'est le premier procès et que donc il y a une série de questions qui se posent pour la première fois, qui a un certain nombre d'acquis juridiques aussi qui ont été fort commentés, sur lesquels je ne vais pas revenir. C'est aussi une période intéressante pour le tribunal du point de vue de la construction des procès, puisque ce sont les débuts, comment est-ce qu'on va organiser la stratégie judiciaire, etc. Et c'est aussi une période dans laquelle il y a pas mal de critiques qui sont adressées au tribunal sur son fonctionnement interne, sur ses lenteurs particulièrement. Et donc ça renvoie aussi au contexte de création qui a été assez complexe dans le sens où à la base le Rwanda avait été demandeur de la création de ce tribunal et puis ensuite avait voté finalement contre la résolution du Conseil de sécurité pour toute une série de raisons sur lesquelles on peut revenir. Alors, donc qui est Jean-Paul Akayezou? C'était le bourgmestre de la commune de Taba. Je vous ai mis une petite carte pour situer plus concrètement. Donc la flèche rouge en fait indique Kigali, Taba est indiqué par la flèche grise-noire. Donc c'est assez proche, il y a une vingtaine de kilomètres qui séparent en fait la ville de Kigali de la commune de Taba qui se situe entre Kigali et Gitarama. Et l'hypothèse de départ, donc, c'était, comme je disais, c'était de considérer que ce premier procès va poser un certain nombre de questions transversales. Et l'objectif ici, ce n'est pas de refaire le procès, de juger ce qui a été fait ou d'évaluer la façon dont le procès a été mené, encore moins de reconstituer l'histoire justement à partir de ce procès, mais bien, donc, comme je le disais dans l'introduction, d'essayer de proposer quelques pistes de déconstruction de ce procès et de mettre en exergue les dynamiques et les interactions. Et ça, j'ai essayé de le faire en partant d'un corpus en amont du jugement, notamment les éléments justificatifs de l'acte d'accusation, plus principalement les procès-verbaux ou les pièces à conviction. C'est un procès qui a débuté, je disais 96, mais a débuté au fond, disons, en janvier 1997 et se terminera en mai 1998. Donc il y a quelques 60 journées d'audience, juste pour vous donner une idée, une quarantaine de témoins, plus de 150 pièces à conviction. Et donc l'accusé Jean-Paul Akayezou qui avait été arrêté en Zambie le 10 octobre 1995, qui est à la base un enseignant, qui a aussi été inspecteur de l'enseignement, puis qui a adhéré au parti MDR, donc le Mouvement démocratique républicain, dès le moment où on a autorisé le multipartisme au Rwanda, et qui a été élu bourgmestre, élu entre guillemets, parce que c'est un processus assez particulier, pas vraiment une élection en tant que telle, en avril 1993, et qui restera à Taba jusqu'en juin 1994, moment où il va fuir la commune de Taba. Et donc c'est en sa qualité de bourgmestre que cet accusé, qui est individuellement responsable, est jugé devant le TPIR et sera reconnu coupable de génocide et de crimes contre l'humanité en septembre 1998. Je vais passer donc aux trois espaces. Le premier espace juridique sur lequel je ne vais peut-être pas beaucoup m'attarder, dans le sens où je vais simplement aborder la question de l'acte d'accusation qui est assez particulier, puisque un premier acte d'accusation qui retenait 12 chefs d'accusation, dont le génocide, la complicité dans le génocide, mais aussi l'incitation directe et publique à commettre le génocide. Et puis, au cours du procès, en juin 1997, cet acte d'accusation va être modifié et on va ajouter 3 chefs d'inculpation qui sont relatifs au viol et aux violences sexuelles. Donc, c'est le premier procès, d'ailleurs, aussi, dans lequel, justement, le viol donc sera qualifié en tant que enfin, comment dire, qu'acte constitutif de génocide, d'acte de génocide. Peut-être, dans ce cadre juridique, souligner une particularité du TPIR, c'est que les victimes n'ont pas de place à part entière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie civile dans les procès, même si les victimes sont définies dans le statut. La définition qu'on en donne, c'est toute personne physique à l'égard de laquelle aurait été commise une infraction relevant de la compétence du tribunal. Mais les victimes n'apparaissent qu'à travers la possibilité du témoignage. Donc, il n'y a pas de partie civile. Et... Donc je disais donc que c'était en sa qualité de bourgmestre que Akaizu est jugé. Autre élément peut-être intéressant aussi, c'est que donc ce qui va être débattu, c'est sa position en tant que bourgmestre de jure et de facto. Qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir du bourgmestre, je dirais, selon les textes, et puis dans la pratique au moment du génocide dans cette commune de Taba. Le tournant du procès, c'est une réunion qui a eu lieu dans laquelle, donc une réunion du 18 avril puis du 19 avril que le bourgmestre va tenir. Tout le débat tourne en fait autour de ça. Qu'est-ce que Akaizu a dit au cours de ce débat et qu'est-ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, la commune de Taba, qui avait été épargnée en fait par le génocide jusqu'à cette date-là, eh bien, va basculer en fait dans le génocide. Et là, durant le procès, on voit aussi qu'on essaye d'inscrire ça dans ce qui se passe plus généralement dans la préfecture de Kitarama, qui est assez particulière puisque le gouvernement intérimaire qui était à Kigali va en fait se déplacer à Kitarama. Donc il y a un contexte régional, ou en tout cas de la préfecture, qui là entre en compte dans les débats. Et dans le jugement, il y aura un chapitre qui sera consacré à un génocide au Rwanda, point d'interrogation, dans lequel les juges se posent la question de est-ce qu'il y a eu un génocide. Et effectivement, il y a donc la reconnaissance aussi dans ce premier jugement de la réalité du génocide qui a été commis au Rwanda en 1994. Alors je passe au deuxième espace d'analyse, espace que j'ai intitulé « espace de témoignage ». Et où là, je pense aussi, ça rebondit sur ce que Madame Clavery disait hier par rapport au prétoire comme scène où une série d'acteurs défilent, confrontent des récits, etc. Ça fourmille de toute une série d'éléments. Et je commencerai par une formule du président dans ce procès, qui est Laïti Kama, le juge Laïti Kama, un juge sénégalais, qui, avant que chaque témoin vienne déposer, dit chaque fois, voilà... Donc je précise que le témoin n'est pas un accusé devant le tribunal, qu'il doit témoigner sans crainte, sans haine, sans passion et sans parti pris. Donc c'est vraiment toujours la formule qu'il utilise pour les témoignages. Alors bien sûr, les témoignages dont il est question ici, ce sont des témoignages juridiques qui ont été produits soit dans le cadre de l'enquête pour les documents qui sont antérieurs au procès, soit dans le cadre du procès. Et donc on a des témoignages qui s'inscrivent dans une logique, dans un schéma, pour reprendre une expression de Raoul Hilberg, un schéma question-réponse, avec une latitude plus ou moins grande selon le type de questions qui sont posées, selon la personne qui pose les questions, et selon les témoins, certains témoins s'exprimant de façon plus longue. Et là, ça dépend aussi du temps et de la latitude qu'on leur laisse au niveau du procès. Alors, qui sont les témoins, justement, qui sont appelés à venir témoigner dans ce procès? Une grande partie des témoins, 30 témoins d'ailleurs, sont des témoins de la commune de Taba, sont des habitants de la commune ou des communes voisines ou de Kitarama, mais donc vraiment des témoins locaux qui pour la plupart connaissent Akaizu depuis des périodes plus ou moins longues, certains quand il était enseignant, d'autres parce qu'il était bourgmestre, donc évidemment connu. Un deuxième groupe, ce sont les témoins experts, ou les témoins qui étaient sur place. Il y a une série de journalistes qui vont venir notamment témoigner. Il y a aussi Roméo Dallaire, donc, qui était en charge de la MINUAR à l'époque, qui vient témoigner dans ce procès, qui reviendra d'ailleurs dans d'autres procès. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est appelé par la défense dans le procès Akaizu. Et alors enfin, donc, troisième catégorie de témoins, l'accusé témoin, où là, donc, il y a la possibilité, les accusés ont la possibilité de comparaître en tant que témoins dans leur propre procès. Pas une obligation, mais la grande majorité, je dirais, des accusés vont saisir cette occasion et vont comparaître en tant que témoins dans leur propre procès. Tous ces témoins, la toute grande majorité de ces témoins vont témoigner à visage, ne vont pas témoigner à visage découvert, à part un témoin qui est en fait à l'époque du procès le bourgmestre, le nouveau bourgmestre de la commune de Tabat. Lui va témoigner, va pas témoigner de façon anonyme, donc il sera enregistré et filmé également. Alors un petit point sur la langue utilisée. Il y a beaucoup d'accusés qui utilisent le français. Qui s'exprime en français au TPIR. Akayesu s'exprimera en français, même si lors de son premier interrogatoire par les enquêteurs, il avait demandé à pouvoir s'exprimer en Kinyarwanda, ce qui en fait lui avait été refusé. Et je dirais, face à ça, les témoins qui viennent de la commune de Tabat s'expriment tous en Kinyarwanda. C'est ce qui est assez étonnant, puisque du coup, il y a un intermédiaire qui apparaît, qui est l'interprète, qui, dans ce premier procès, et même dans beaucoup d'autres procès, et jusqu'à aujourd'hui, fait l'objet de beaucoup de débats sur la façon de traduire justement une série d'expressions sur les questions linguistiques. Il y a des experts qui seront appelés là-dessus. Et donc, ils vont tous témoigner en Kinyarwanda, même si souvent, ils précisent qu'en fait, ils ont quelques connaissances du français, mais qu'ils préfèrent s'exprimer dans leur langue maternelle. Et donc, au-delà de toutes ces considérations linguistiques d'expression, il s'agit de poser la question, et là je cite Annette Wiewiórka, la question cruciale pour l'historien qui est d'où témoigne-t-on et de quoi témoigne-t-on? Et donc là il me semble que la langue utilisée est un facteur assez important. Et donc cet interprète au début, donc dans ce premier procès, dans les premiers procès de façon générale, est assis dans la salle d'audience à côté du témoin. Et donc quelque part il devient aussi un acteur de la salle d'audience et même un intermédiaire dans le sens où dans la dynamique des interrogatoires, on s'adresse souvent à l'interprète en disant « mais demandez au témoin de spécifier ou de répondre à la question » sans dire directement au témoin « répondez à la question ». C'est assez, assez particulier. Le témoin qui est assis face aux trois juges, puisque les chambres sont composées de trois juges, avec à sa droite l'équipe du procureur et à sa gauche la défense, et entouré de rideaux lorsqu'il témoigne sous un pseudonyme pour que le public qui se trouve dans son dos, dans la galerie publique, ne puisse pas le voir. Donc ces témoins, ils témoignent sous déclaration solennelle et ils sont soumis à un interrogatoire principal par la partie qui les a appelés à venir témoigner et puis un contre-interrogatoire par la partie adverse. Et en tout cas, pour ce que j'ai pu constater jusqu'à présent, on a une structure des interrogatoires qui est assez similaire, avec des questions qui sont posées de façon plus ou moins dans le même ordre, disons, à tous les témoins, à savoir leur lieu de résidence à l'époque des faits, la manière dont ils ont appris l'attentat contre l'avion présidentiel. Donc là, il y a une attention qui est apportée à ça. Est-ce que vous l'avez entendu par oui dire? Est-ce que vous l'avez entendu à la radio? À quel moment est-ce que vous l'avez appris? Le jour même, le lendemain ou plus tard? Et puis la façon dont ils ont perçu en fait les suites de cet événement au niveau local dans la commune. Il y a aussi des questions sur la connaissance de l'accusé et des questions sur la dimension ethnique du conflit. Enfin, il y en a plein d'autres, mais voilà une série de questions qui reviennent. En revanche, des questions par exemple comme l'âge ou la profession n'apparaissent pas forcément de façon systématique ou parfois de façon cachée, puisque les procès-verbaux sont caviardés. Donc il y a une série d'informations identifiantes qui sont gommées. Et donc probablement que ce genre d'informations aussi entrent dans ces catégories gommées, la profession par exemple, qui pourrait amener à identifier ces personnes. Alors, ce qui est intéressant par rapport au premier espace dont je parlais, dans le cadre juridique qui est assez normatif, c'est que finalement, les témoins ne se comportent pas toujours de façon conforme à ce canevas qui leur est imposé. Et je pense que là, c'est peut-être justement un des éléments qui est intéressant, ou qui serait intéressant à explorer. C'est une intuition. C'est que donc il y a une série de débordements, en tout cas d'ouverture par rapport au canevas, qui peuvent être provoqués, par la peur. Certains témoins s'énervent, par la douleur, par l'incompréhension aussi de ce qu'on leur demande, par la colère. Et ce sont des états d'esprit qui, me semble, transparaissent de ces procès-verbaux. Il y a un cas particulier quand même dans le procès à Akayesu, c'est que les deux premiers témoins vont être contre-interrogés par Akayesu lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Enfin, Akayesu a changé plusieurs fois d'avocat. En fait, il ne reconnaît pas, il n'est pas satisfait des avocats qui lui sont commis d'office, puisque tous les accusés devant le TPR sont déclarés indigents. Donc, c'est le TPR qui fournit, qui paye, qui permet qu'il y ait donc des avocats qui défendent les accusés. Donc, Akayesu n'est pas satisfait. Et donc, comme il y a un débat à ce moment-là dans le procès sur est-ce qu'on va garder ces deux accusés ou est-ce qu'on va lui autoriser à encore changer d'avocat, eh bien, en attendant, c'est Akayesu lui-même qui va contre-interroger les témoins, ce qui, évidemment, pose quand même beaucoup de questions aussi par rapport à une autorité locale qui va interroger des témoins qu'il connaît. D'ailleurs, il les salue, il leur adresse ses meilleurs vœux de Noël. Donc, c'est assez, assez particulier. Et on passe de Akayesu parlant de lui à la troisième personne, comme si ce n'était pas lui qui parlait, à des tutoiements entre le témoin et Akayesu. Et donc, au-delà des questions que posait donc Annette Wiewiórka, pourquoi est-ce qu'on témoigne, d'où est-ce qu'on témoigne, on pourrait aussi se demander pour qui témoignent les témoins devant le TPIR. Alors, bien sûr, il y a la procédure judiciaire, c'est la raison évidente. Et là, bon, je précise, c'est aussi un pan que j'aimerais explorer. Mais il y a un moment du procès sur lequel j'aimerais revenir, justement par rapport à cette possibilité de débordement ou d'ouverture au niveau du procès. Il s'agit du témoignage du témoin G, qui est une femme qui vit à Tabac, qui d'ailleurs dans son témoignage va parler de trahison de l'accusé par rapport aux citoyens de la commune, puisqu'il y a ce changement de comportement de l'accusé qui paraît en filigrane durant tout le procès. Les gens avaient cherché refuge en fait au bureau communal. Ce témoin, dont la famille était cachée et dispersée, et dont une grande partie a été tuée au mois de juin 1994, ce que je trouvais intéressant et touchant dans ce témoignage, c'est que donc elle a apporté des photos de ses enfants et de son mari. Seul un enfant, donc son plus jeune enfant, a survécu. Et donc, à un moment, à la fin de son témoignage, elle dit si vous voulez, je peux vous les montrer. Et donc, là, il y a évidemment, c'est la limite aussi du procès-verbal, c'est que on ne sait pas exactement ce qui se passe, si ce n'est qu'ici, le président Laïti Kama commente en fait ce qui se passe, qui permet de comprendre ce qui passait à ce moment-là. Et donc il dit, le témoin donne des photos au tribunal, il donne toutes les photos au tribunal et non au procureur, c'est au tribunal qu'il donne les photos, nous pensons, donnez-nous les photos. Et donc il demande aussi après au procureur, est-ce que vous voulez en faire une pièce à conviction de ces photos? Donc c'est la question de, ok, est-ce qu'on fait entrer ça en preuve? Qu'est-ce qu'on fait de ces documents qui apparaissent à ce moment-ci dans le procès? Et le procureur dit « Non, je pense que c'est la propriété privée de madame ». Donc ces photos, on n'a pas ces photos parce qu'elles n'ont pas été admises en preuve, mais elles ont été montrées. Et le témoin terminera après avoir montré ces photos. Elle dira « Akayesu est vraiment un assassin parce que s'il avait voulu, tout cela ne serait pas passé dans la commune ». C'est comme ça qu'elle termine son témoignage. Alors donc je disais que les accusés peuvent aussi comparaître en tant que témoin. Akayesu le fera. Sa comparution durera deux jours, donc il va passer deux jours à la barre. Et c'est un épisode qui a été assez commenté. Je pense qu'il y avait des journalistes présents, etc. Et c'est un moment qui apparaît dans plusieurs travaux qui ont déjà été effectués sur le TPIR. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce rôle de témoin dans son propre procès peut aussi se prolonger par des témoignages dans d'autres procès. Pour Akayesu, il sera appelé en fait comme témoin dans le procès gouvernement 1, 10 ans plus tard, donc en mai 2008, il viendra témoigner pour la défense dans ce procès gouvernement 1. Et dès le début de l'audience, il dira à ce moment-là qu'il veut que la vérité soit dite et il reviendra aussi de façon indirecte sur ce qui avait été dit dans son procès et sur les faits qu'il conteste, puisqu'il a plaidé non coupable à tous les chefs d'accusation et a nié ce qu'on lui a reproché aussi. Et enfin, pour terminer sur les témoignages, je trouvais que c'était assez intéressant ce que M. Provost avait dit hier sur le droit comme une discipline cannibale, dans le sens où moi, j'avais aussi pensé à la question de la désappropriation, finalement, de ces témoignages, puisque une fois qu'ils ont été donnés au TPIR, ils vont être évalués, confrontés, mis en parallèle les uns avec les autres, et donc vont... enfin, voilà, ils vont être évalués pour voir si, au-delà de tout doute raisonnable, on peut estimer qu'effectivement les faits corroborés peuvent être pris en compte dans le jugement. Et le jugement accorde beaucoup d'importance justement à tous ces témoignages. Il est très détaillé sur ce qui s'est dit, sur les liens qu'on peut faire entre les différents témoignages en analysant les arguments des uns et des autres. Sur l'espace de collecte et de production contextuelle, donc ça c'est le dernier espace, mais je vais peut-être passer plus rapidement là-dessus, du coup. Aussi parce que dans le procès à Keizu, même s'il y a aussi cette idée d'inscrire malgré tout ce cas particulier dans une narration plus générale, notamment à travers les pièces à conviction qui sont présentées aux témoins experts, c'est-à-dire essayer d'expliquer quand même ce qui se passe et comment justement la situation de tabac s'insère dans ce contexte général, ça reste néanmoins moins important. Je dirais le contexte historique, en tout cas dans l'acte d'accusation par exemple, c'est très flagrant, mais même dans le jugement, reste encore relativement moins important que dans d'autres procès où on a vraiment des chapitres très volumineux sur le contexte historique dans lequel s'inscrivent les cas. Juste peut-être préciser rapidement donc, là-dessus, c'est qu'on a différents supports de pièces à conviction qui sont présentés. Il y a des documents écrits, la presse, des discours politiques, des photographies et aussi un film. Peut-être juste préciser sur ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été présenté donc, par le procureur. Donc, c'est un film, plutôt un montage, je dirais, de différentes prises de vue qui avaient été prises par un journaliste britannique à l'époque au Rwanda. Qui est un journaliste qui viendra d'ailleurs témoigner au procès. Donc ce film va être montré une première fois par le procureur au moment où le témoin est là. Et puis il sera montré une deuxième fois quand le procureur va faire son réquisitoire. Donc il va remontrer en fait ces images à ce moment-là. C'est un film qui dure 4 minutes et qui, en fait, ce sont des prises de vue de massacre et... ce sont des images extrêmement dures et insoutenables. Voilà. Je vais conclure. Commencer par une petite citation du juge Laitikama qui dit à un moment après un témoignage, voilà, dites au témoin que le tribunal le remercie, qu'il a contribué, il s'en souviendra à une œuvre de justice. Et puisqu'on dit que ce tribunal est historique, enfin là c'est moi qui souligne, il se souviendra qu'un jour il a été ou qu'il aurait déposé devant ce tribunal. Ça pour illustrer simplement que la question d'enjeux historiques, tant du point de vue de l'écriture de l'histoire ou de l'enjeu historique du tribunal ou du caractère historique, de la portée historique de ce tribunal, sont des concepts qui reviennent plusieurs fois et dans le chef des différentes parties au cours du procès. Et donc, pour ouvrir plus généralement le questionnement, je n'ai pas de conclusion définitive, donc pour ouvrir le questionnement plus généralement sur les archives rassemblées et produites par le TPIR, dans une perspective de mise en accusation et de défense des principaux responsables du génocide. Je pense qu'on peut aussi poser la question de est-ce que ces archives peuvent servir à écrire l'histoire de la tragédie rwandaise de 1994 et est-ce qu'elles permettent une analyse des processus de destruction, là je cite Semelin. Et donc pour revenir à la question des narrations que j'avais évoquées, donc, en n'abordant pas donc le TPIR comme un objet d'étude monolithique, l'image finalement d'une narration unifiée ou unique serait réductrice, en tout cas en amont des jugements, et ferait donc l'impasse sur les dynamiques à l'œuvre. Et il semble aussi que, voilà, à nouveau en écho à ce qui s'est dit hier, il est important de poser la question du type d'histoire qu'on peut écrire à partir de ces archives, qui témoigne d'un processus judiciaire très vaste, avec des sources diverses et très très riches, je reviens à la remarque qu'avait fait Madame Claverie hier, mais aussi d'autre part, à un processus qui s'inscrit dans un contexte politique, régional et international, et qui a des implications sur les politiques et les stratégies des parties au procès. Je pense que ça c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit. Et aussi avec cette limite, que je reconnais d'ailleurs à mon travail, c'est que je n'ai pas accès aux documents qui permettraient de faire une analyse des politiques du procureur. Mais par contre, l'analyse de l'architecture des procès, la construction des procès au niveau macro et puis au niveau plus micro des acteurs qui y sont, malgré tout, est là. Et donc, c'est ce que j'ai essayé d'esquisser modestement pour pour ce premier procès, le procès à Cahiézou, et je vous remercie pour votre attention.